Chapitre 13. L'hypercapitalisme entre modernité et archaïsme. Nous venons d'analyser le rôle joué par les sociétés communistes et post-communistes dans l'histoire des régimes inégalitaires, et en particulier dans le mouvement de retour des inégalités à l'œuvre depuis les années 1980-1990. De façon générale, le monde actuel est directement issu des grandes transformations politico-idéologiques qui ont marqué l'évolution des régimes inégalitaires au cours du XXe siècle. La chute du communisme a conduit au développement d'une forme de désillusion face à toute possibilité d'une économie juste, sentiment qui nourrit, en ce début du XXIe siècle, les replis identitaires et qui doit être dépassé. La fin du colonialisme a mené au développement de relations économiques et migratoires entre les différentes parties du monde sur une base supposément moins inégalitaire que par le passé. Mais le système mondial reste fortement hiérarchisé et insuffisamment social et démocratique, et ces relations ont engendré de nouvelles tensions entre les pays comme à l'intérieur des pays. Enfin, le retour d'une forme de néopropriétarisme est patent, même si les différences avec le régime idéologique dominant au XIXe siècle sont nombreuses et que le régime actuel est plus composite et fragile qu'il n'y paraît. Nous allons étudier dans ce chapitre plusieurs des grands défis inégalitaires et idéologiques communs auxquels font face, en ce début de XXIe siècle, les différentes sociétés de la planète, en insistant sur le potentiel de changement et d'évolution. Nous allons d'abord analyser les différentes formes de l'inégalité extrême dans le monde au XXIe siècle, au confluent de logiques anciennes et nouvelles. J'insisterai ensuite sur l'opacité économique et financière croissante qui caractérise le monde actuel, en particulier pour la mesure et l'enregistrement des revenus et des patrimoines financiers. Cela peut surprendre dans une civilisation qui célèbre régulièrement l'avènement de l'âge de l'information et du big data et témoigne d'une certaine démission des autorités étatiques et statistiques publiques. Surtout, cela complique singulièrement le développement d'un débat mondial informé sur les inégalités et sur les solutions à apporter aux problèmes qui se posent, à commencer par celui du réchauffement climatique, qui pourrait servir de déclencheur du changement. Puis, nous passerons en revue plusieurs autres défis inégalitaires globaux fondamentaux, le maintien de fortes disparités hommes-femmes de type patriarcal, auxquelles seules des mesures volontaristes extrêmement fortes pourraient venir à bout, la paupérisation paradoxale de l'État dans les pays en développement, conséquence d'une libéralisation commerciale imposée et insuffisamment préparée et coordonnée politiquement, et enfin, le nouveau rôle joué par la création monétaire depuis 2008, qui a profondément perturbé les perceptions du rôle respectif de l'État et des banques centrales, de l'impôt et de la monnaie, et plus généralement les représentations de l'économie juste. L'ensemble nous permettra de dresser les contours du néopropriétarisme contemporain et de mieux comprendre les questions posées par son dépassement. Les formes de l'inégalité dans le monde au XXIe siècle. La caractéristique la plus évidente du régime inégalitaire en vigueur au niveau mondial en ce début de XXIe siècle tient au fait que les différentes sociétés de la planète sont désormais liées les unes aux autres avec une intensité inédite. La mondialisation est certes un processus de très long terme. Les relations entre les différentes parties du monde se sont graduellement multipliées depuis 1500, souvent sous les formes violentes du colonialisme et de l'esclavagisme, mais en impliquant également des formes d'échanges culturels et de brassage humain plus pacifiques. L'intégration commerciale, migratoire et financière de la planète avait déjà atteint une ampleur impressionnante au cours de la Belle Époque, 1880-1914. La magnitude des contacts humains et des flux informationnels, a toutefois pris une toute autre dimension au cours de la mondialisation digitale et hypercapitaliste des années 1990-2020. L'usage démultiplié des moyens de transport, et surtout la diffusion instantanée des textes, des images et des sons aux quatre coins de la planète, grâce aux technologies de l'information, ont conduit à des formes d'échange et d'interdépendance culturelle, socio-économique et politico-idéologique inconnues auparavant. Ces évolutions ont en outre pris place dans le contexte d'une forte croissance démographique doublée d'un rééquilibrage de grande ampleur. Les Nations Unies prévoient ainsi une population mondiale de 9 milliards d'habitants d'ici à 2050, dont 5 milliards pour l'Asie, plus de 2 milliards pour l'Afrique, 1 milliard pour les Amériques et moins de 1 milliard pour l'Europe. Voir graphique 13.1. Cette interconnexion du monde n'interdit toutefois pas une grande diversité des régimes sociopolitiques et inégalitaires. D'après les sources disponibles, la part du décile supérieur dans le revenu total est inférieure à 35% en Europe et s'approche de 70% au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et au Qatar. Voir graphique 13.2. Si l'on examine les parts du revenu national allant aux 50% les plus pauvres, aux 40% suivants et aux 10% les plus riches, ou encore aux 1% les plus riches, on constate d'immenses variations entre les pays. Dans les pays les moins inégalitaires, la part du revenu total allant aux 10% les plus riches est seulement 1,5 fois plus forte que celle allant aux 50% les plus pauvres, contre 7 fois plus forte dans les pays les plus inégalitaires. La part des 10% des revenus les plus élevés dans le total des revenus atteint 64% du revenu total au Moyen-Orient, 420 millions d'habitants, contre 9% pour les 50% les plus pauvres. En Europe, Union européenne élargie, soit au total 540 millions d'habitants, ces deux parts sont de 34% et 21%, et aux États-Unis, 320 millions d'habitants, de 47% et 13%. Voir graphique 13.3. Quant à la part allant aux 1% les plus riches, elle est moitié plus faible que celle allant aux 50% les plus pauvres dans les pays les plus égalitaires, ce qui est déjà considérable s'agissant d'un groupe 50 fois moins nombreux. Elle est plus de 3 fois plus élevée dans les pays les plus inégalitaires. La part des 1% des revenus les plus élevés dans le total des revenus atteint 30% du revenu total au Moyen-Orient, contre 9% pour les 50% les plus pauvres. En Europe, ces deux parts sont de 11% et 21%, en Chine de 14% et 15%, et aux États-Unis de 20% et 13%. Voir graphique 13.4. Tout cela démontre à quel point il est erroné de se contenter de moyennes macroéconomiques, comme le PIB par habitant, pour comparer les pays. Une même moyenne peut dissimuler des réalités totalement différentes en fonction de la répartition entre groupes sociaux en vigueur dans le pays considéré. De façon générale, ces écarts entre régions mondiales sont importants et informatifs et peuvent aider à mieux comprendre la nature des institutions sociales et fiscales permettant de préserver une inégalité moins forte qu'ailleurs, par exemple en Europe. Il faut cependant garder à l'esprit que les niveaux d'inégalité sont élevés et croissants sur la quasi-totalité de la planète, y compris en Europe. Il serait par conséquent peu pertinent d'instrumentaliser ce type d'informations pour expliquer aux classes populaires et moyennes européennes que leur sort est infiniment enviable et justifierait bien quelques sacrifices. Malheureusement, cette stratégie argumentative est souvent utilisée en ce début de XXIe siècle par les groupes sociaux et politiques généralement situés tout en haut de l'échelle occidentale et mondiale des revenus et de la propriété, le plus souvent pour justifier des sacrifices en leur faveur. Ce type de discours peut avoir son efficacité politique pour les principaux intéressés, mais il n'est pas exempt de danger. La plupart des Européens sont parfaitement conscients du fait que les inégalités en Europe sont moins fortes qu'en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, au Brésil ou aux États-Unis. Leur expliquer que les lois intangibles de la mondialisation et de l'économie impliqueraient nécessairement un alignement sur ces niveaux d'inégalité, affirmation par ailleurs totalement fantaisiste et infondée, et qui n'aide nullement à résoudre les problèmes qui se posent, est sans doute le plus sûr moyen de leur faire rejeter la mondialisation. Une comparaison plus pertinente du point de vue des habitants du continent européen consiste par exemple à remarquer que les inégalités de revenus qui avaient fortement diminué en Europe au cours du XXe siècle ont augmenté de façon significative depuis les années 1980-1990. La progression a été certes moins forte qu'ailleurs, mais elle marque néanmoins une rupture de tendance parfaitement claire et bien documentée. Surtout, elle n'admet aucune justification évidente. En particulier, cette hausse des inégalités s'est accompagnée d'un abaissement de la croissance. Il faut en outre préciser que les inégalités sont toujours restées extrêmement fortes en valeur absolue. En particulier, la concentration de la propriété n'a en réalité jamais cessé de se situer à des niveaux impressionnants dans les différents pays européens. Or, cette concentration patrimoniale est en progression depuis les années 1980-1990, avec à peine 5% du patrimoine privé total détenu par les 50% les plus pauvres, contre 50%-60% pour les 10% les plus riches. Si l'on examine maintenant les régions du monde où les inégalités sont les plus fortes, il est intéressant de constater qu'elles correspondent à plusieurs types distincts de régimes politico-idéologiques. Parmi les pays et régions les plus inégalitaires en ce début de XXIe siècle, on trouve d'une part des pays qui se caractérisent par un lourd héritage en termes d'inégalités statutaires et de discrimination raciale, coloniale et esclavagiste. C'est le cas pour l'Afrique du Sud, qui a supprimé l'apartheid au début des années 1990, ou pour le Brésil, qui est le dernier pays à avoir supprimé l'esclavage à la fin du XIXe siècle. La dimension raciale et le passé esclavagiste peuvent également contribuer à expliquer pourquoi les États-Unis sont plus inégalitaires que l'Europe et ont eu plus de difficultés à bâtir des institutions de type social-démocrate. Le Moyen-Orient, sommet des inégalités mondiales. On trouve également au sommet de la hiérarchie inégalitaire du monde des régions comme le Moyen-Orient, où les inégalités ont des origines plus modernes, dans le sens où elles sont liées non pas à des divisions raciales ou esclavagistes anciennes, mais à la concentration des ressources pétrolières sur de petits territoires aux populations limitées par rapport à l'ensemble de la région. Ces ressources pétrolières, exportées sur toute la planète, sont en cours de transformation en richesses financières permanentes par l'entremise des marchés financiers et du système légal international. Ce mécanisme sophistiqué permet de comprendre le niveau exceptionnel d'inégalité qui caractérise la région. C'est ainsi, par exemple, que les ressources totales dont dispose le système éducatif d'un pays comme l'Égypte, dont la population atteint les 100 millions d'habitants, sont 100 fois plus faibles que les recettes pétrolières dont bénéficient l'Arabie Saoudite, les Émirats ou le Qatar, dont les populations sont souvent minuscules. Les inégalités au Moyen-Orient sont par ailleurs étroitement liées au système de frontières mis en place dans la région par les Franco-Britanniques à la suite de la Première Guerre mondiale, puis à la protection militaire intéressée que les puissances occidentales ont accordée aux pétromonarchies. Sans cette protection, il est probable que la carte politique de la région aurait connu des transformations importantes, en particulier à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990. L'intervention militaire de 1991, qui visait à restituer le pétrole du Koweït à ses émirs et à promouvoir les intérêts occidentaux, se déroula en même temps que l'effondrement de l'Union soviétique, ce qui a d'ailleurs facilité l'intervention des Occidentaux, désormais sans rival. Ces événements marquent l'entrée symbolique dans la nouvelle ère politico-idéologique hypercapitaliste. Ils illustrent également la fragilité du compromis trouvé à l'époque. Quelques décennies plus tard, le régime inégalitaire moyen-oriental apparaît véritablement comme un condensé du mélange explosif d'archaïsme, de modernité hyper-financiarisée et d'irrationalité collective qui caractérise parfois notre époque. On y trouve de fortes traces de logique coloniale et militaire. Des gisements pétroliers qui feraient mieux de rester dans le sol pour éviter le réchauffement climatique, et des systèmes légaux et financiers internationaux extrêmement sophistiqués permettant de pérenniser les droits de propriété et de les placer à l'abri des convoitises. On notera également que les pétromonarchies du Golfe Persique sont, avec la Russie post-communiste, les pays au monde qui utilisent le plus intensivement les paradis fiscaux. Ajoutons à ce sujet que les estimations indiquées sur le graphique 13.2 concernant les inégalités au Moyen-Orient ou au Qatar doivent être considérées comme des bornes inférieures, compte tenu des limitations des sources disponibles et des hypothèses que nous avons échafaudées. La mesure des inégalités à l'intérieur des pays du Moyen-Orient est en effet compliquée par l'extrême opacité de l'accès aux données sur les revenus et les patrimoines, en particulier au sein des pétromonarchies. tout laisse pourtant à penser que ces dernières se caractérisent par une très forte concentration des richesses, aussi bien parmi la population nationale qu'entre cette dernière et la main-d'œuvre étrangère, qui atteint 90% de la population totale au Qatar, aux Émirats et au Koweït, et plus de 40% en Arabie Saoudite, à Oman et à Bahreïn. Faute de données suffisantes, les estimations reprises ici reposent sur des hypothèses minimales sur ces inégalités à l'intérieur des pays du Moyen-Orient et découlent principalement des très forts écarts entre pays. En adoptant des hypothèses alternatives, et sans doute plus réalistes, on obtiendrait pour les pétromonarchies, notamment au Qatar et aux Émirats, des parts du revenu total de l'ordre de 80-90% et non de 65-70% pour le décile supérieur, soit des niveaux d'inégalité voisins de ceux constatés dans les sociétés esclavagistes les plus inégalitaires observées dans l'histoire. Il ne fait guère de doute que ce niveau extrême d'inégalité observé au Moyen-Orient contribue à aiguiser les tensions et à l'instabilité persistante de la région. En particulier, le grand écart entre les valeurs religieuses officiellement affichées par les régimes en place, fondées sur des principes de partage et d'harmonie sociale à l'intérieur de la communauté des croyants, et la réalité de la situation est particulièrement de nature à exacerber les accusations d'illégitimité et les violences. Dans l'absolu, une organisation régionale fédérale et démocratique sous la forme de la Ligue arabe ou d'autres organisations politiques pourrait permettre de partager les richesses et de prendre en charge de vastes projets d'investissement pour la jeunesse de la région. Pour l'instant, on n'en prend guère le chemin. Cela découle des limitations de stratégies déployées par les acteurs politiques régionaux, mais aussi du fait que l'imaginaire politico-idéologique mondial est insuffisamment porté sur des solutions de cette nature. En particulier, les États occidentaux comme les acteurs privés européens et états-uniens trouvent souvent des avantages au statu quo, notamment quand les pétromonarchies leur achètent des armes ou financent leurs clubs sportifs ou leurs universités. Pourtant, ici comme ailleurs, le respect absolu des relations de domination et des droits de propriété issus du passé ne suffit pas à définir un modèle viable de développement. Les acteurs occidentaux auraient en réalité tout intérêt à voir plus loin que leurs intérêts financiers de court terme et à promouvoir un agenda fédéraliste, social et démocratique permettant de sortir de ces contradictions. C'est le refus de penser des solutions post-nationales et égalitaires nouvelles qui finit par engendrer des projets politiques autoritaires et réactionnaires, dans l'Europe de la première moitié du XXe siècle, comme dans le Moyen-Orient de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. La mesure des inégalités et la question de la transparence démocratique. La hausse des inégalités est, avec le réchauffement climatique, l'un des principaux défis auxquels la planète est confrontée en ce début de XXIe siècle. Alors que le XXe siècle avait été marqué par une réduction historique des inégalités, la remontée observée depuis les années 1980-1990 contribue à une profonde remise en cause de la notion même de progrès. Les défis inégalitaires et climatiques sont d'ailleurs étroitement liés et ne pourront être résolus qu'ensemble. Il est clair en effet que la résolution du problème du réchauffement climatique, ou tout du moins son atténuation, va exiger des transformations substantielles des modes de vie. Pour que celle-ci soit acceptable par le plus grand nombre, il est indispensable que les changements et efforts demandés soient répartis de la façon la plus juste possible. Cette exigence de justice est d'autant plus évidente que les plus riches, aussi bien entre pays qu'à l'intérieur des pays, sont responsables d'une part disproportionnée des émissions de gaz à effet de serre, et que les conséquences du réchauffement vont être autrement plus dures pour les plus pauvres. Pour ces différentes raisons, la question de la transparence démocratique sur les inégalités et la répartition des richesses est essentielle. Sans indicateurs intelligibles fondés sur des sources fiables et systématiques, il est impossible de développer un débat public serein au niveau national, régional et a fortiori mondial. Les données présentées dans ce livre sont issues pour une part importante de la World Inequality Database, WID.World. Un consortium indépendant s'appuyant sur un grand nombre de centres de recherche et d'organisations, et dont le principal objectif est précisément de permettre au débat public sur les inégalités de s'appuyer sur les informations les plus complètes et les plus accessibles possibles. Ces travaux reposent sur une confrontation systématique des différentes sources disponibles, comptes nationaux, enquêtes auprès des ménages, données fiscales et successorales, etc. Elles permettent de dresser une première cartographie des régimes inégalitaires dans le monde et de leur évolution. Il faut cependant souligner que les sources actuellement disponibles, malgré tous les efforts des chercheurs, restent parcellaires et insuffisantes. Cela tient notamment aux limitations considérables des données rendues publiques par les gouvernements et les administrations. Le monde actuel se caractérise même par certains côtés par une opacité économique et financière accrue, en particulier pour ce qui concerne la mesure et l'enregistrement des revenus et des patrimoines financiers. Cela peut sembler paradoxal à une époque où les technologies de l'information devraient permettre en principe une plus grande transparence sur ces questions. Cela traduit dans certains cas une véritable démission des administrations étatiques, fiscales et statistiques concernées, et surtout un refus politico-idéologique de prendre au sérieux la question des inégalités, et notamment des inégalités de propriété. Commençons par la question des indicateurs utilisés pour décrire et analyser la répartition des richesses. Il est essentiel qu'ils soient aussi intuitifs que possible, afin de permettre une large appropriation citoyenne. C'est pourquoi il est préférable d'avoir recours à des indicateurs comme la part du revenu total ou du patrimoine total, allant aux 50% les plus pauvres, aux 40% suivants et aux 10% les plus riches. De cette façon, chacun peut se faire une idée relativement concrète de ce à quoi correspondent les différentes répartitions. Pour comparer les niveaux d'inégalité entre pays, un indicateur particulièrement simple et expressif fondé sur ces données consiste à calculer le rapport entre le revenu moyen des 10% les plus riches et celui des 50% les plus pauvres, ou bien entre le revenu moyen des 1% les plus riches et celui des 50% les plus pauvres. On obtient alors des écarts entre pays extrêmement significatifs. Par exemple, on constate que le rapport entre le revenu moyen des 10% les plus riches et celui des 50% les plus pauvres est égal à environ 8 en Europe, 19 aux États-Unis et 35 en Afrique du Sud ou au Moyen-Orient. Voir graphique 13.5. Quant au rapport entre le revenu moyen des 1% les plus riches et celui des 50% les plus pauvres, il est actuellement d'environ 25 en Europe, 80 aux États-Unis et 160 au Moyen-Orient. Voir graphique 13.6. L'avantage de ce type d'indicateur est double. Il peut être compris très simplement et il peut être relié directement à des questions de politique fiscale ou sociale. En particulier, chacun peut se faire son opinion sur la façon dont différents taux d'imposition permettent de modifier la répartition des revenus. Il en va de même si l'on examine la concentration de la propriété et sa possible redistribution. Les parts allant aux différents groupes permettent immédiatement de comprendre comment une redistribution des droits de propriété pourrait affecter ce que détiennent les uns et les autres. Nous y reviendrons plus loin. À l'inverse, les indicateurs tels que le coefficient de Gini, souvent utilisé dans les mesures officielles des inégalités, sont beaucoup plus difficiles à interpréter. En particulier, ce type de coefficient, compris entre 0, égalité complète, et 1, inégalité complète, ne permet pas de savoir quels groupes sociaux ont causé telle ou telle variation de l'indicateur au cours du temps ou entre pays. Par exemple, les inégalités ont fortement augmenté entre le milieu et le haut de la répartition mondiale des revenus depuis 1980, alors qu'elles diminuaient nettement entre le bas et le milieu de la distribution. Si bien qu'un indicateur synthétique de type Gini pourrait à tort donner l'impression d'une totale stabilité et d'une croissance équilibrée. Plus généralement, le coefficient de Gini donne une vision exagérément apaisée et aseptisée des inégalités. Il tend à masquer les conflits entre les groupes sociaux en chair et en os qui composent la hiérarchie des revenus et des patrimoines, et il conduit souvent à aplatir les évolutions en cours. Ajoutons que le calcul de ce coefficient se fonde généralement sur des données qui tendent elles-mêmes à sous-estimer structurellement l'ampleur des inégalités et en particulier sur les enquêtes auprès des ménages fondées sur l'autodéclaration, au sein desquelles les plus hauts revenus et patrimoines déclarés sont souvent ridiculement faibles. Dans ces conditions, l'utilisation d'indicateurs comme le coefficient de Gini revient souvent à dissimuler les faiblesses, voire parfois le caractère totalement aberrant des données sous-jacentes, ou tout du moins à jeter un voile pudique sur ces difficultés. Un autre indicateur souvent utilisé consiste à ignorer purement et simplement la partie de la répartition au-delà d'un certain seuil, par exemple au-delà du 90e centile, au-delà duquel se situent les 10% les plus riches, et à diviser ce seuil par la médiane, le seuil correspondant au 50e centile, partageant la population en deux moitiés de taille égale, ou par le seuil du 10e centile, au-dessous duquel se trouvent les 10% les plus pauvres. Ce type de ratio, parfois désigné P90 sur P50 ou P90 sur P10, serait donc égal à 1, égalité complète, dans une société où les 5% du haut détiendraient la totalité des revenus ou des propriétés et où les 95% du bas seraient tous approximativement au même niveau. Le problème d'une telle approche est que cela revient à oublier une part considérable des richesses totales. La part du décile supérieur dans le revenu total est généralement comprise entre 30 et 70%, et celle du décile supérieur dans le total des propriétés s'échelonne généralement entre 50 et 90%. Si l'on choisit de passer sous le tapis une telle proportion des richesses, il est peu probable que l'on parvienne à contribuer à la transparence du débat démocratique ou à rehausser la crédibilité des statisticiens et des institutions publiques.